Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous sur le monde aujourd'hui, édition du mercredi 30 juillet 2014. En direct de Washington, Bagassi Koura et Anne Alberson. Bonjour Anne.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, drame à Conakry en Guinée. Au moins 24 morts suite à une bousculade lors d'un concert organisé sur une plage de la capitale. La psychose de l'Ebola gagne le Libéria. Plus de 10 000 personnes ont protesté hier à Monrovia contre l'ouverture d'un nouveau centre d'isolement. En RDC, trois partis d'opposition appellent à manifester lundi prochain contre tout projet de révision de la Constitution.
Nous convoquons un meeting populaire pour expliquer à la population que notre Constitution ne peut pas être révisée actuellement.
Crise israélo-palestinienne, 20 Palestiniens qui s'étaient réfugiés dans une école des Nations Unies ont été tués tôt ce matin dans des bombardements israéliens. Et puis un Camerounais qui chante en mandarin dans l'opéra de Pékin. Et vous aurez en fin d'émission l'actualité sportive et la musique. Pour l'instant, le journal.
Drame à Conakry, une bousculade lors d'un concert organisé sur une plage de la capitale guinéenne a causé la mort d'au moins 24 personnes hier soir. Des détails avec Henri Francisque.
La bousculade, qui a également fait des dizaines de blessés selon une source à la gendarmerie nationale, s'est produite sur la plage de Rogbané dans la commune de Ratoma, banlieue nord de Conakry, alors qu'une foule nombreuse y était rassemblée pour suivre le concert ayant pour tête d'affiche le groupe de rap Instinct Killers, très populaire dans le pays d'après diverses sources. Les autorités ont décrété une semaine de deuil national. La présidence, dans un communiqué, a déploré la mort d'hommes et plusieurs blessés, sans préciser de bilan, en indiquant que les services de santé s'activaient dans la nuit de mardi à mercredi pour porter secours aux blessés. La présidence guinéenne souligne aussi que le directeur général de l'Agence guinéenne des spectacles est suspendu de ses fonctions. Une enquête confiée au procureur de la République a été ouverte pour situer les responsabilités. Aucune explication n'est immédiatement disponible sur ce qui a pu être à l'origine du mouvement de foule. Le concert était organisé au lendemain de la fête de l'Aïd, célébrée lundi en Guinée pour marquer la fin du Ramadan.
Les soldats français ont arrêté à Agao dans la nuit de lundi à mardi un membre du Moudjahou, Yoro Ouldo Daha, chef de guerre du mouvement arabe de l'Azawad dissident, doit s'expliquer sur l'attentat à la voiture piégée qui a fait un soldat français tué à Al-Moustrat le 14 juillet dernier, Boubacar Touré.
Yoro Ouldo Daha était un membre du Moudjahou originaire de Al-Moustrat qui devient actuellement son fief, c'est-à-dire sa base militaire, à la faveur de son retour dans la zone en tant que membre du MAA dissident. Très connu des populations de Gao lors de l'occupation, il était très actif sur le terrain à la tête d'une unité de combattants islamistes du Moudjahou. Pour signer son retour, Yoro Ouldo Daha arrive à Gao avec quelques véhicules de l'armée malienne qu'il aurait pris au MNLA lors des nombreux affrontements qui ont opposé son mouvement, le MAA dissident et le MNLA à Al-Moustrat, Anafis et Kidal. Le dernier combat entre les deux groupes remonte seulement la semaine dernière et Yoro Ouldo Daha a dirigé cette opération contre les rebelles Touareg. C'est donc dans la nuit du lundi au mardi qu'il serait arrêté par les Français à Gao. Le chef de guerre du MAA dissident doit certainement s'expliquer sur l'attentat à la voiture piégée perpétré contre une patrouille de l'armée française le 14 juillet dernier dans son fief Al-Moustrat, un attentat qui a fait un tué parmi les militaires français. Gao, Boubacar Touré pour La Voix de l'Amérique.
Crash de l'avion d'Air Algérie, les experts français fouillent le site du drame dans le nord du Mali. Les boîtes noires de l'appareil sont déjà en France pour analyse, chez Rubin Dorsil.
Sur ces lieux d'accès difficiles, dans la zone de Gossi, à quelques 150 km de Gao, chaque mètre carré est passé au peigne fin. Sous une chaleur écrasante, des gendarmes, policiers et une équipe du bureau d'enquête et d'analyse tentent de déterminer les causes de l'accident et essayent d'identifier les victimes. Il n'y a eu aucun survivant parmi les 118 personnes qui étaient à bord de l'appareil. Le colonel Patrick Touron, chargé de l'identification, a affirmé à l'agence France-Presse qu'il va falloir procéder à des analyses ADN pour identifier certaines victimes dont les corps sont fragmentés et non identifiables par les mesures classiques de médecine légale. Pour dire que l'identification elle-même prendra plus de temps. Le site est sous la surveillance de quelques centaines de soldats français, maliens et de la mission de l'ONU au Mali, la MINUSMA.
La principale base militaire à Benghazi, dans l'est libyen, est tombée hier aux mains des groupes islamistes. Les autorités impuissantes font face à des combats meurtriers dans la capitale menacée par un immense incendie. Selon l'AFP, la France est sur le point d'évacuer ses ressortissants de Libye par voie maritime après la décision de plusieurs autres pays occidentaux, dont les États-Unis, les Pays-Bas, le Canada et la Bulgarie, d'évacuer leur personnel diplomatique.
En République démocratique du Congo, trois partis de l'opposition ont appelé à un meeting lundi sur la place Sainte-Thérèse de Kinshasa pour dénoncer tout projet de révision de la Constitution qui permettrait au président Joseph Kabila de briguer un troisième mandat. La déclaration est signée par l'UDPS d'Etienne Tshisekedi, l'UNC de Vital Kamerhe et l'Engagement pour la citoyenneté et le développement. Sarah Diaby a joint à Kinshasa Martin Fayoulou, fer de lance de la lutte contre la révision de la Constitution en RDC.
Nous organisons un meeting populaire le lundi 4 août ici à Kinshasa. Et ce meeting, c'est simplement pour parler de la situation politique de l'heure ici en RDC, plus principalement de l'inopportunité de la révision constitutionnelle. Il y a des membres du parti de M. Kabila qui sont en train d'utiliser l'argent de l'État, des ministres, font des réunions avec des bourgmestres pour expliquer qu'il faut réviser la Constitution ou carrément changer notre Constitution. Nous, comme on ne peut pas utiliser les moyens de l'État, nous convoquons un meeting populaire pour expliquer à la population que notre Constitution ne peut pas être révisée actuellement. Au point numéro 4 de la révision constitutionnelle, il est dit qu'on ne peut pas réviser la Constitution d'une façon intempestive. C'est que M. Bouchard, secrétaire général du PPRD, et M. Kabila et les autres veulent faire, c'est une révision intempestive. Or, la Constitution l'interdit.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
20 Palestiniens qui s'étaient réfugiés dans une école des Nations Unies ont été tués ce matin à l'aube à la suite de bombardements israéliens dans le nord de la bande de Gaza, selon les services de secours cités par l'AFP. Selon les mêmes sources, des obus de char ont touché de plein fouet deux salles de classe d'une école de l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens dans le camp de Jabalia. Un responsable de l'école, pour sa part, fait état d'au moins 15 morts, selon l'AFP.
Et par ailleurs, le commandant militaire du Hamas a refait surface pour rejeter tout cessez-le-feu avec Israël jusqu'à ce que les exigences du groupe soient satisfaites. Issia Kaba.
Mohammad Deif est apparu sur les médias palestiniens hier, répétant les demandes du Hamas qu'Israël mette fin à son blocus de Gaza. Deif est confiné dans un fauteuil roulant depuis une tentative d'assassinat israélienne. Une journée de frappe aérienne israélienne et des tirs ont tué au moins 100 Palestiniens hier mardi, ce qui porte le nombre de morts dans la bande de Gaza à plus de 1100. La plupart des victimes sont des civils dont de nombreux enfants. 53 soldats israéliens et 3 civils ont été tués. Le premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, a déclaré que l'opération militaire contre le Hamas ne s'arrêtera pas tant qu'Israël n'aura pas totalement détruit le réseau de tunnels utilisé par le Hamas pour attaquer Israël.
Crise ukrainienne, le président Barack Obama a dévoilé de nouvelles sanctions américaines visant les secteurs de l'énergie, de la défense et des finances russes pour protester contre le soutien de Moscou aux rebelles dans l'est de l'Ukraine. Parlant mardi à la Maison-Blanche, M. Obama a lié ses sanctions au crash le 17 juillet de l'avion de ligne malaisien qui a tué les 298 personnes à son bord. Les analystes américains croient savoir que l'avion en question a été détruit par un missile russe probablement tiré par des rebelles dans l'est de l'Ukraine.
Et ici même aux États-Unis, le juge fédéral Frederick Scullin a accordé hier un sursis jusqu'au 22 octobre pour permettre aux autorités de Washington DC de revoir leur réglementation sur le port des armes à feu. Morgane Guiriec.
Le juge Frederick Scullin a en effet estimé que l'interdiction du port d'armes à feu à Washington par un particulier hors de son domicile, la seule de ce type dans tous les États-Unis, ne respectait pas la Constitution américaine. En vigueur depuis 1975, cette mesure visait à endiguer le grand nombre d'homicides dans la capitale. Mais selon l'AFP, le juge Scullin l'avait considéré anticonstitutionnel. Il a suspendu cette décision pendant 90 jours pour donner le temps aux autorités de la capitale d'adopter une nouvelle réglementation. En 1998, la Cour suprême avait levé l'interdiction sur la détention des armes à feu, se référant au deuxième amendement de la Constitution, garantissant le droit de détenir et porter des armes à feu. Actuellement, 44 des 50 États américains autorisent le port d'armes à feu en public.
C'est tout pour le journal. Il est 6h10 en temps universel, 2h10 ici à Washington. Merci à Anne Alberson, Bagassi Koura au micro au Libéria. Plus de 10 000 personnes ont protesté hier à Monrovia, la capitale, contre l'ouverture d'un nouveau centre d'isolement de la fièvre Ebola dans leur quartier. Mais le ministère libérien de la Santé estime que ce centre est essentiel dans la lutte contre la maladie et que les Libériens doivent commencer à faire confiance à leur personnel médical. Félix Passis Zembrou.
Le bilan s'alourdit au Libéria. Selon l'OMS, il y a au moins 25 nouveaux cas et 2 morts causés par la fièvre Ebola ces 7 derniers jours, ce qui porte le nombre des cas à 249, dont 129 morts depuis que la maladie a été identifiée dans le pays en mars. Mais la population locale ne veut pas du centre que l'ONG Samaritan Purse, basée aux États-Unis, envisage à l'hôpital Eloi, dans la banlieue de Monrovia. Mylène Norris, qui habite près de l'hôpital, explique. J'ai peur que si le gouvernement installe ici ce centre de dépistage, j'attraperai assurément cette maladie. Nous avons peur, nous ne voulons pas mourir. Norris, à l'instar de nombreux Libériens, est convaincu que les médecins étrangers venus à la rescousse sont responsables de la propagation de la fièvre Ebola. Et le ministre de la Santé, Walter Gwenigal, déclare que beaucoup de gens évitent les médecins, les vrais. À noter que certains Libériens pensent que le salut ne peut venir que des sorciers. Au Nigeria, où la mort d'un homme venu du Libéria a exacerbé les craintes, les médecins, en grève depuis un mois, se promettent de le rester tant que les hôpitaux du pays seront dans un état lamentable. L'association médicale nigériane assure qu'en cas d'épidémie, le syndicat a prévu des mesures d'urgence pour faire face. Mais avec des médecins contractant eux-mêmes la maladie dans d'autres pays, beaucoup de Nigérians doutent que la fin de la grève puisse faire une différence.
Le programme Yali, édition 2014, tire à sa fin. Barack Obama a rencontré près de 500 jeunes leaders africains une semaine avant le sommet États-Unis-Afrique qui se tiendra ici même à Washington. Félix Yepassis Zembrou a recueilli la réaction de l'un des participants au Yali, Yannick Malessandji. Alors, donc, on va revenir à Yannick Malessandji dans un instant. Il a participé au Yali 2014. On l'écoute.
C'est d'abord une très bonne chose parce que je suis dans le domaine de l'entrepreneuriat. Je gère un bureau d'études à Bangui et ce que je suis venu apprendre ici aux États-Unis, c'est également de l'entrepreneuriat, de leadership et du business. Donc ça va me permettre d'améliorer mes affaires au niveau de Bangui et quand je vais rentrer au pays, je vais participer à la formation des jeunes dans le domaine de l'entrepreneuriat, du leadership et du business.
Avez-vous un message pour les jeunes centrafricains qui aimeraient aussi profiter de ce programme l'année prochaine?
Oui, bien sûr. Cette année, par exemple, il y a eu plus de 50 000 jeunes dans toute l'Afrique qui ont eu à participer à ce concours, mais c'est seulement 500 qui ont été retenus. Et malheureusement pour la République centrafricaine, d'après les statistiques, c'est seulement une vingtaine de jeunes qui ont eu à participer à cette compétition et deux ont été retenus.
Qu'est-ce qui explique justement ce manque de participation massive de la République centrafricaine?
Bon, je pense que le problème se situe à plusieurs niveaux. D'abord, il y a le premier problème qui est le problème de niveau, parce que beaucoup de jeunes centrafricains ne s'intéressent pas à l'Internet, puisque tout se fait au niveau de l'Internet. Il faut avoir une connexion Internet, il faut avoir un minimum en anglais et il faut s'intéresser aux activités au niveau de l'ambassade des États-Unis ou bien s'intéresser à des concours qui se font sur l'Internet. Donc, je crois que ce sont ces barrières-là. Il y a également un problème d'information. Les gens ne sont pas trop informés de ce qui s'est passé. La procédure de sélection a eu lieu et les échéances. Donc, je crois que c'est, en gros, c'est ça.
C'était le centrafricain Yannick Malessandji participant au Yali 2014.
La Voix de l'Amérique en République centrafricaine, à Bangui, sur 101.7 FM.
Le président ivoirien Alassane Ouattara est arrivé hier soir à Ouagadougou, Burkina Faso, pour le quatrième TAC, le traité d'amitié et de coopération entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, un cadre qui se veut être un pôle d'échange, de croissance et de développement socio-économique entre ces deux pays unis par l'histoire, mais aussi la géographie. De Ouagadougou, la correspondance de Zoumana Wonogo.
Une fois en Côte d'Ivoire et la fois suivante au Burkina, tel est le planning organisationnel du TAC, traité d'amitié et de coopération Burkina-Côte d'Ivoire. Cette fois-ci, c'est au tour du Burkina d'être l'hôte du sommet. On écoute Alassane Dramane Ouattara, le président ivoirien. Ses premiers mots ont été pour les victimes du crash de l'avion de Air Algérie.
Mes premiers mots d'abord, monsieur le président, à vous-même, au gouvernement et au peuple burkinabé. Je voudrais présenter toutes mes condoléances pour le terrible accident d'avion d'Air Algérie. Nous avons pu faire des avancées importantes. Nous comptons les consolider et nous voulons aller encore plus loin. Et je pense que ce sera l'occasion pour nous de démontrer à quel point nous sommes attachés et nous sommes engagés à faire en sorte que cette coopération se développe davantage. Bien évidemment, les relations bilatérales entre le Burkina et la Côte d'Ivoire sont des relations très fortes et nous aurons l'occasion de travailler et de continuer de faire en sorte de contribuer au mieux-être de nos populations. C'est important. Nous tenons à apporter une amélioration des conditions de vie et également la paix dans nos deux pays, mais également dans la sous-région.
Ce mercredi, les premiers ministres ivoiriens et burkinabés vont présider concomitamment un conseil des ministres des deux pays pour élaborer un projet de communiqué final à soumettre aux deux chefs d'État. Et ce communiqué va aborder, dit-on, les grands chantiers de coopération et développement comme le réseau routier, les chemins de fer et l'énergie électrique. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique en FM à Abidjan, 24 heures sur 24. Branchez-vous sur 99, votre fréquence VOA à Abidjan.
En Afrique du Sud, le bouillant Julius Malema a publié un livre intitulé « The Coming Revolution ». La prochaine révolution, ses combattants pour la liberté économique ont surpris plus d'un avec un score de près de 10% aux élections législatives de cette année, Sarah Diaby.
Dans son ouvrage « The Coming Revolution » ou « La prochaine révolution », Julius Malema et ses combattants pour la liberté économique se présentent comme la réponse aux problèmes socio-économiques dont la corruption, un système scolaire qui laisse à désirer et une inégalité financière presque chronique depuis la fin de l'apartheid. Le taux de chômage progresse, plus de 5 millions de personnes sont à la recherche d'un emploi dont la plupart sont des Noirs. Pour le lancement de son livre, Julius Malema a répété sa rengaine populiste.
In everything else we do, we seek to achieve economic freedom in our lifetime.
Dans tout ce que nous faisons, nous cherchons à réaliser la liberté économique. C'est la vision stratégique de nos combattants que nous souhaitons qu'ils intériorisent et apprécient.
Selon lui, la liberté économique sera réalisée par une approche socialiste dont la nationalisation des mines et des banques et l'expropriation des terres sans aucune compensation. Dans ce livre, Malema ne cache pas sa haine des Blancs qui, selon ses propres termes, doivent restituer la terre qu'ils ont volée à la majorité noire. Et ce message a un écho parmi les Sud-Africains noirs qui ont perdu toute illusion après l'échec de l'ANC à fournir les services de base et qui voient de plus en plus le parti de Nelson Mandela enlisé dans de multiples scandales de corruption. Malema lui-même traîne des casseroles car il a été arrêté, accusé de fraude, d'évasion fiscale, de blanchiment d'argent et de rackets. Mais ses sorties font toujours des vagues au sein de la classe politique. Gwede Mantashe, secrétaire général de l'ANC au pouvoir, a comparé les combattants pour la liberté économique à des nazis.
Si vous voyez leur comportement au sein du Parlement, je peux vous dire qu'il y a la formation d'idées nazies et fascistes sous toutes ses formes. Ils s'habillent en uniforme pour mobiliser de la même manière qu'Hitler utilisait les chemises brunes pour mobiliser des adeptes.
Et il a fait remarquer que les nazis n'avaient pas commencé leur campagne en tuant des juifs, mais en faisant d'abord des promesses. Créés il y a un an, les combattants pour la liberté économique sont reconnaissables à leur béret rouge. Malema lui-même s'autoproclame commandant en chef. Ils ont obtenu 6,35% des voix aux législatives du 7 mai et 25 sièges sur les 400 au Parlement.
Le renforcement des relations entre l'Afrique et la Chine a entraîné un afflux de migrants chinois en Afrique et à l'inverse, un nombre croissant d'Africains vont en Chine, non pas comme des réfugiés désespérés, mais par choix. De nombreux Africains ont choisi d'y rester, dont le Camerounais Francis Tchiegue, venu en Chine il y a 10 ans, Jean-Roger Billon.
Francis Tchiegue raconte qu'il s'est intéressé à la Chine dès sa tendre enfance au Cameroun. Avec son père, il regardait des films de Bruce Lee et de Jackie Chan. Son père pratiquait le kung-fu et depuis, il rêvait d'aller en Chine.
Je voulais aller en Chine pour voir comment les gens y vivent. J'étais convaincu que tous les Chinois pratiquent le kung-fu. Chacun peut sauter, chacun peut faire ces choses que Jackie Chan et Bruce Lee font. Donc, je pensais, eh bien, je rêve d'y aller et essayer d'étudier cela.
Une décennie plus tard, il est devenu un maître, mais pas de kung-fu. Tchiegue, aujourd'hui âgé de 39 ans, est maître du mandarin. Il chante fréquemment à l'opéra de Pékin ou fait des traductions à la télévision chinoise. Son enthousiasme pour la langue et le pays l'a convaincu de rester. Il vit à Pékin avec sa femme, une Russe, et ses 3 enfants. Les Africains qui ont fait des études trouvent la vie plus facile en Chine que la première vague, qui a dû lutter avec la discrimination et une culture fermée qu'ils ont trouvé difficile à adopter. Stella Matsinier du Mozambique est venue en Chine pour étudier le développement à l'université de Tsinghua à Pékin. Elle a obtenu son diplôme et va à l'école de langue pour parfaire son mandarin. Elle espère trouver un bon emploi en Chine et estime que ses chances sont bonnes.
Vous savez, il y a beaucoup de fuites des cerveaux et on nous a toujours dit que nous ne devrions jamais oublier d'où nous venons. Nos parents, nos professeurs, nos chefs nous donnaient toujours ces conseils. C'est quelque chose que vous entendez dès le jeune âge dans beaucoup de pays africains. N'oublie pas d'où tu viens.
Matsinhe affirme qu'elle aime la Chine et que c'est un endroit où elle peut développer son potentiel. À une époque où les possibilités d'une vie meilleure semblent provenir de l'étranger, la Chine est devenue pour de nombreux Africains une nouvelle terre pour réaliser ses rêves.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur La Voix de l'Amérique. C'est l'heure des sports et j'accueille Jacques Aristide. Bonjour Jacques.
Bonjour Bagassi, bonjour à tous.
Football pour commencer avec ce transfert jugé illégal au Burkina Faso.
Oui, le président du club champion, l'étoile filante de Ouagadougou, a failli passer des jours en prison pour le transfert d'un de ses joueurs vers la Tunisie. Des explications avec notre correspondant à Ouaga, Salif Kabore.
L'étoile filante de Ouagadougou a bien remporté le championnat national cette année au Burkina Faso, mais son président Moustapha Dektounda a failli être incarcéré à la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou pour transfert illégal d'un joueur.
J'ai échappé, si on peut utiliser ce terme, au niveau de la gestion d'un joueur que vous connaissez très bien, monsieur Mohamed Francis, qui était un joueur que nous avons recruté. Et puis bon, ce joueur éprouvait certaines difficultés à notre niveau et puis il a disparu de la circulation. C'est après que nous avons appris qu'il était en Tunisie.
D'après le président de l'EFO, il a été trahi par ses proches collaborateurs.
Il a bénéficié de la complicité d'un de mes proches collaborateurs, à savoir monsieur Traoré Adama Damis, qui était le secrétaire administratif du club.
Le club tunisien affirme avoir recruté le joueur, mais dans les nord.
Pour la Tunisie, ils ne connaissaient pas ma signature. C'est une délibération datée du 30 septembre, signée du président de l'étoile filante que je suis, avec le cachet du président de l'étoile filante. Alors donc pour eux, c'était toute une libération bien faite.
Le transfert aurait coûté 30 millions de francs CFA, mais les coupables nient toujours n'avoir rien perçu. Ouagadougou, Salif Kabore, La Voix de l'Amérique.
Football encore, Jacques, transfert d'un joueur africain évoluant en Europe.
L'international malien Cheikh Diarra rejoint la JOCR avec option d'achat. La saison dernière déjà, le jeune attaquant de Rennes avait été prêté à Istres.
Et un Iranien chez les Qataris.
Oui, l'international Ashkan Dejaga a confirmé son départ définitif pour le club d'Al Arabi au Qatar. L'attaquant évoluait en Première Ligue à Fulham en Angleterre.
En NBA, le championnat de basketball nord-américain, la justice autorise la vente de Los Angeles Los Clippers.
Un juge californien a ordonné la vente du club à l'ex-dirigeant de Microsoft, Steve Ballmer, pour 2 milliards de dollars, donnant tort au propriétaire Donald Sterling, qui tentait de bloquer la vente. Sterling, vous le savez, a été exclu de la NBA pour des propos racistes. Il avait d'abord donné son accord à la vente. Avant de se rétracter fin mai, il a déjà déposé une autre plainte pour empêcher la transaction.
Un Jamaïcain et une Africaine en or dans l'épreuve reine au jeu du Commonwealth en Écosse.
Eh bien, Bagassi, en l'absence d'Usain Bolt, qui soigne un pied blessé, Kemar Bailey Cole a donné à la Jamaïque sa troisième médaille d'or consécutive du 100 mètres à ces Jeux, où la Nigériane Blessing Okagbare a remporté le titre chez les dames. Record des Jeux à l'appui, elle s'est imposée en 10 secondes 85 centièmes, loin devant les deux Jamaïcaines Veronica Campbell-Brown et Karen Stewart.
Après le sport, on passe à la musique avec Roger Muntu. Bonjour Roger.
Bonjour Bagassi. Célèbre pour ses tubes So Yesterday, Wake Up ou Beat of My Heart, Hilary Duff est de retour après une pause musicale. Écoutons Anywhere But Here.
When I'm in a crowd, on an island by myself, silent or too loud, wishing I was somewhere else. And I can't believe you hit me fast and hard when you turn to me and say, never change the way you are. Trying to catch your eye, things will never look the same. Now I can't deny, you're the moth and I'm the flame. There I go again, I should walk before I run.
Alors Roger, Hilary Duff a pris une pause de 7 ans et maintenant de retour sur la scène musicale. Cela doit être une très bonne nouvelle pour les fans.
Une très bonne nouvelle, Bagassi. Durant ses 7 ans, la chanteuse a mis sa carrière de popstar en stand-by pour se focaliser sur sa vie de mère, tout en développant des projets humanitaires et les apparitions à la télévision et au cinéma.
Hilary Duff dans Anyway But Here. Merci, Roger.
De rien, Bagassi. Salutations à tous nos auditeurs, à Bobo du Lasso.
Roger Muntu, que vous retrouvez chaque jour dans RM Show à partir de 20h, temps universel. C'est tout donc pour cette édition matinale. Merci à Anne Alberson pour la mise en œuvre. Un grand merci à toute la rédaction de La Voix de l'Amérique, Bagassi Koura à Washington. Passez une excellente journée à l'écoute de La Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, La Voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.